Mémoire vive.
Présenté par Christelle Le Polothèque.
Et préparé par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Claude Nataf.
Bonjour.
Historien et président de la Société d'Histoire des Juifs
ancien
de Tunisie.
Ancien président.
Ancien président. Je viens de le préciser. Vous êtes cependant à l'origine de la publication dans la collection Témoignages de la Shoah de la FMS de trois ouvrages qui reviennent sur l'histoire des Juifs de Tunisie pendant la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait.
Deux sont des témoignages des responsables de la communauté juive de Tunis. Six mois sous la botte de Paul Guèze, Étoile jaune et croix gammée de Robert Borgel, et le dernier qui rassemble différents témoignages à travers toute la Tunisie, les Juifs de Tunisie sous le joug nazi. Ces trois ouvrages reviennent sur ces six mois de novembre 42 à mai 43, pendant lesquels la Tunisie a été occupée par les forces de l'Axe et transformée à l'occasion en champ de bataille. Alors nous souhaitions revenir sur cette histoire à l'occasion de la commémoration de la rafle de Tunis, commémoration qui a eu lieu ce matin même au mémorial de la Shoah. Alors pour commencer cette émission, j'aimerais que l'on revienne avec vous sur ce 9 décembre 1942 à Tunis.
Tout à fait, c'est le jour tristement célèbre dans l'histoire de la communauté de Tunis où on a raflé les Juifs, comme à Varsovie, comme à Berlin, comme à Paris. La veille, le colonel Rauf, le chef des SS, avait demandé à la communauté de lui présenter le lendemain à 5h du matin 3000 jeunes gens équipés de pelles et de pioches, demande qu'il était bien entendu impossible à un organisme cultuel et de bienfaisance, comme l'était le conseil de la communauté juive à Tunis, de fournir. Et le lendemain, Rauf et les SS sont entrés en action et ont raflé. Se sont installés d'abord devant la grande synagogue de l'avenue de Paris, à Tunis, ont profané le temple, ont lacéré les objets sacrés, ont même uriné sur les siffrés Torah, et ont arrêté toutes les personnes qui se trouvaient dans le temple, y compris des jeunes enfants et des vieillards, et ont arrêté tous les juifs qui passaient devant la synagogue et dans les rues avoisinantes. Et la même rafle s'est poursuivie aux abords de l'école de l'Alliance israélite à Tunis, rue Maltasrira. Et un millier de personnes, entre 17 et 50 ans, ont été arrêtées ce jour-là et envoyées dans des camps de travail. C'est la sinistre rafle du 9 décembre 1942, en même temps qu'une centaine de notables appartenant aux classes aisées ont été arrêtés à leur domicile et internés comme otages à la prison militaire, destinés à être fusillés s'il y avait des sabotages commis par des juifs envers les forces allemandes.
Alors pour bien comprendre la situation, est-ce qu'on peut revenir avec vous tout d'abord sur la communauté juive de Tunisie à la veille de la Seconde Guerre mondiale? Déjà, elle représente combien de personnes environ?
Alors, nous avons des chiffres très précis puisque Vichy a ordonné un recensement en 1941, qui permet de connaître un état exhaustif de la communauté juive de Tunisie. Alors, il y avait 62 000 juifs de nationalité tunisienne, 16 500 juifs de nationalité française, qui étaient, pour une faible partie d'entre eux, des juifs originaires de métropole, qui s'étaient installés en Tunisie avec le protectorat, pour une partie un peu plus importante, mais qui ne dépassait pas 2 ou 3 000, des juifs originaires d'Algérie qui s'étaient installés en Tunisie, et puis, pour la plus grande partie, des juifs originaires de Tunisie, mais qui s'étaient naturalisés français, en vertu de des lois de 1910 et 1923, qui permettaient à des juifs tunisiens, munis de certains diplômes universitaires, de solliciter la naturalisation française. Et il y avait 3000 juifs de nationalité italienne, 3 à 4000 juifs de nationalité italienne, 600 juifs britanniques et un millier de juifs de diverses nationalités. C'est une communauté qui, depuis 1880 et peut-être même avant, quelques années avant, avait rencontré la modernité. Et c'est une communauté dont les élites avait fait délibérément le choix de la modernité, puisque l'Alliance israélite a implanté ses premières écoles en Tunisie en 1878, 3 ans avant le protectorat. Et vous savez que partout où l'Alliance s'est implantée, dans tout le bassin méditerranéen, elle s'est heurtée au rabbinat, qui pensait que l'Alliance, en développant les études profanes, allait entamer la culture religieuse de la population juive. En Tunisie, non seulement il n'y a pas eu de heurts entre le rabbinat et l'Alliance, mais le rabbinat a consenti à faire abandon de 25% à peu près, un peu moins de 25% des ressources de la communauté au profit de l'Alliance israélite pour l'enseignement profane. Il n'y a pas une communauté au monde qui ait fait un pareil sacrifice dans le but précisément d'élever le niveau culturel et social de la communauté. Et c'est une communauté qui a rencontré la France depuis 1881 et qui, peu à peu, cherche à s'intégrer au modèle français avec une campagne des élites aussi pour la naturalisation française, pour être rattachée à la justice française et pour l'éducation française.
Et c'est cette communauté qui va donc subir, dès 1940, les lois antisémites de Vichy, au même titre que... Ça va être les mêmes persécutions, les mêmes exclusions qu'en France.
Alors, vous savez que le statut des Juifs promulgué par Vichy le 3 octobre 1940 contenait in fine un article qui disposait que ce statut s'appliquerait en Algérie, dans les colonies et dans les pays de protectorat. Alors, pour l'Algérie, à l'époque, c'est la France. C'est un ensemble constitué de 3 départements français. Donc, les lois métropolitaines s'appliquent automatiquement. En Tunisie, au Maroc, c'est un peu différent, parce que la France ne règne pas. Il y a des souverains, le sultan au Maroc, le bey à Tunis, qui sont nominalement les chefs du pays. Mais si la France ne règne pas, elle gouverne, par l'intermédiaire de résidents généraux qui sont ses représentants. Et la France peut, non pas imposer, mais elle propose au bey des mesures que le bey signe généralement. Alors quand il s'y oppose, il y a une négociation qui s'engage entre lui et le résident général, mais le statut des Juifs ne soulève pas, en 1940, d'opposition de principe, même s'il y a des oppositions sur les détails, du bey de Tunis ou du sultan du Maroc. Le statut sera néanmoins, alors en ce qui concerne la Tunisie, appliqué avec beaucoup de retard. C'est-à-dire que le statut, malgré toutes les pressions que Vichy adresse au résident général, le statut ne sera appliqué que le 30 novembre 1940, et avec des dispositions moins dure, moins draconienne que le statut métropolitain. Il y a toujours des professions qui sont interdites aux Juifs, il y a des fonctions qui sont interdites aux Juifs, mais c'est plus libéral que le statut métropolitain. Pour 3 raisons. D'abord, la personnalité en Tunisie du résident général, qui est l'amiral Esteva, qui est un chrétien convaincu, très pratiquant, qui est bien entendu très fidèle au maréchal Pétain, très révolution nationale, mais en tant que chrétien, il trouve injuste de ces persécutions. Alors il essaye de les limiter au maximum. Il y a aussi la position du bey, qui ne veut pas calquer totalement sa position sur celle de Vichy, et qui demande un certain nombre d'aménagements et d'améliorations. Et puis, il y a le fait que, face à l'Italie, qui revendique la Tunisie, et qui a une importante minorité juive parmi ses ressortissants, on ne veut pas braquer les Italiens en humiliant les Juifs italiens, mais on ne peut pas non plus créer une diversification entre les Juifs tunisiens et français d'un côté qu'on persécuterait, et les Juifs italiens qu'on laisserait de côté. Donc il y a un jeu d'influence qui fait que le statut est plus, disons, moins draconien, moins dur en Tunisie qu'en Algérie et même qu'au Maroc.
Il y a, par exemple, un peu plus tard, les Juifs de Tunisie n'ont pas été astreints, par exemple, au port de l'Étoile jaune.
Alors l'étoile jaune, ça, ce n'est pas une mesure française. Hein. L'étoile jaune, c'est une mesure allemande.
Un peu plus tard,
c'est
oui,
une mesure allemande.
Non, mais donc ça veut dire que ils ont pu finalement négocier tout au long.
Alors l'étoile jaune, c'est les Allemands ont essayé d'imposer l'étoile jaune en Tunisie.
Et c'est le bœuf qui a.
Alors c'est variable. En ce qui concerne le sud tunisien, le Sahel, les villes de Sousse, de Sfax, de Boknine, de Madia, tous les Juifs ont été contraints de porter l'étoile jaune. Le commandement allemand local a imposé aux Juifs, y compris aux enfants d'un an ou de deux ans, le port de l'étoile jaune. Il y a eu un ambassadeur d'Israël à Paris qui s'appelait Nissim Zvili, qui était originaire de la ville de Madia, dans le Sahel, et il avait un ou deux ans à l'époque, et il a porté l'étoile jaune. En ce qui concerne Tunis, les Allemands avaient imposé le port de l'étoile jaune au début aux Juifs qui étaient internés dans les camps. C'est une mesure qui est vite tombée en désuétude. En revanche, ils ont cherché à imposer le port de l'étoile jaune à toute la population juive de Tunis. Et là, il y a eu des négociations. Mmh. Il y a eu des négociations. Le B s'y est opposé, a fait savoir qu'il n'admettait pas ce genre de discrimination. Le consul d'Italie s'y est opposé pour ses ressortissants, donc on ne pouvait pas imposer quelque chose aux juifs tunisiens et français qu'on n'imposait pas aux juifs italiens. Et finalement, les Allemands avaient reporté, et il était prévu que la demande, que l'étoile jaune devait être portée à partir du mois de mai.
D'accord,
et des étoiles avaient même été préparées par la communauté. Mais le 7 mai 43, il y a eu la prise de Tunis par les Alliés et quelques jours après, la capitulation des armées allemandes en Tunisie.
Qu'est-ce qui va changer pour les Juifs de Tunisie, justement, à partir de novembre 42? C'est-à-dire que jusque-là, ils subissent des exclusions de la fonction publique, de certaines professions. À partir de l'arrivée des forces de l'Axe de novembre 42, qu'est-ce qui se passe pour eux?
À partir de novembre 1942, ils sont face aux Allemands. Jusqu'alors, ils étaient face à des fonctionnaires de Vichy qui prenaient des mesures d'exclusion, des mesures de spoliation. La communauté juive s'appauvrissait puisqu'ils étaient privés de travail pour la plupart des élites. Mais il n'y avait pas encore d'atteinte physique. Avec l'arrivée des Allemands, ce sont des mesures de contrainte physique qui sont prises, des arrestations, on met toute la jeunesse juive dans des camps, avec tout ce que cela peut comporter.
Des camps de travail.
Des camps de travail, mais avec tout ce que cela a comporté comme sévices, comme même des gens ont été fusillés dans des camps comme maltraitance, mais il y a eu des fusillés sous prétexte de tentatives d'évasion, de manque de respect, etc. À la fin, il y a eu des déportations. Donc c'est d'une persécution à une tentative d'élimination. Et là, nous savons que aujourd'hui, nous savons que la volonté des Allemands était d'inclure les Juifs de Tunisie dans ce qu'ils appelaient la solution finale du problème juif.
Oui, ça, c'est effectivement ce que vous dites. C'est-à-dire que Walter Rauf, qui est donc responsable de centaines de milliers de la mort de centaines de milliers de Juifs dans les pays de l'Est, c'est lui donc, qui était aux commandes des Einsatzkommando de la Tunisie à la Palestine. Et pour vous, il est évident que son but était d'exterminer les Juifs de Tunisie.
Alors écoutez, c'est vrai que le persécuteur en chef, c'était Walter Rauf, de sinistre mémoire. Vous avez rappelé son pédigré. Bon. Rauf avait été l'adjoint d'Eichmann. Il était responsable technique des camions à gaz par lesquels l'élimination des Juifs de l'Est a débuté. Et Rauf a été envoyé ensuite avec les armées allemandes en Grèce, avec comme ordre de mission, et Serge Klarsfeld a retrouvé son ordre de mission, il y a deux ans, je crois, ou trois ans qu'il l'a retrouvé, avec comme mission de, si les armées allemandes pénétraient en Égypte, d'éliminer la communauté juive d'Égypte, et ensuite de faire la même chose dans la Palestine d'alors, dans ce qu'était la Palestine d'alors. Bon. Comme vous le savez, ce ne sont pas les armées de Rommel qui ont pénétré en Égypte, mais au contraire, les armées de Rommel qui ont été contraintes de reculer jusqu'en Libye. Rauf, qui était rattaché à l'armée de Rommel, a donc reculé. Et de Libye, ensuite, il a reculé jusqu'en Tunisie. Et Rauf, c'est un soldat. Un soldat, il a un ordre. Bon. Il n'a pas pu l'exécuter en Égypte et en Palestine, puisqu'il n'a pas pénétré en Égypte et en Palestine. Il est en Tunisie. Là, il est le dos au mur en Tunisie. Ben, cet ordre, il va l'exécuter en Tunisie. Et il va persécuter la population juive, et notamment en enfermant la jeunesse juive dans des camps de travail. On ne parle pas de mort à ce moment-là. Mais on s'est longtemps demandé pourquoi Rauf a-t-il enfermé la jeunesse juive dans des camps de travail dans la zone du front, alors que c'était une gêne, finalement, pour les troupes qui devaient se battre face aux troupes alliées, que c'était une jeunesse qui n'était pas apte aux travaux manuels. C'était excessivement difficile de les faire travailler, alors qu'il avait sur place une main-d'œuvre italienne ou une main-d'œuvre arabe spécialisée qu'il aurait pu recruter. Alors, des personnalités musulmanes avaient dit « Rauf, vous savez, vous avez échappé au pire, parce que Rauf avait l'intention, si jamais le front était percé et que les troupes allemandes pénétreraient en Algérie, il avait l'intention de fusiller toute la jeunesse juive qui se trouvait dans les camps de travail. » Bon, on n'avait pas de preuves écrites. Il y a une dizaine d'années, on a trouvé le journal du général Lorenzelli, qui était général italien, qui commandait la division d'assaut italienne. Et dans son journal de guerre, il parle des camps de travailleurs de jeunesse juive qu'on a confiés à la garde de l'armée italienne. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi on lui donne ces jeunes juifs qui ne sont pas de bons soldats, qui ne sont pas de bons ouvriers. Et puis qu'il apprend que la volonté des Allemands était de les détruire, ces jeunes. Et il dit, pour moi, officier italien, c'était quelque chose d'inacceptable. Voilà pourquoi j'ai fermé les yeux et je laissais s'évader. Bon. Donc nous avons eu confirmation. Et puis Serge Klarsfeld a trouvé l'ordre de mission de Rauf. Et l'interprétation logique, c'est que n'ayant pu accomplir sa besogne en Grèce et en Palestine et en Égypte, il l'accomplit là où il est, en Tunisie. Mais il y a mieux. Les historiens ont travaillé sur les documents de la conférence de Wannsee, la sinistre conférence de Wannsee, qui a fixé le programme d'extermination. Et il est indiqué France 850 000. Or, beaucoup de gens se sont mis à rire en disant ces Allemands, on disait que c'était le peuple le mieux renseigné, le mieux organisé de la Terre, etc. En France, il y avait 350 000 juifs. Au maximum, pourquoi ils ont mis ce chiffre sans commune mesure? Oui, mais si on rajoute le nombre de juifs d'Afrique du Nord au nombre de juifs français, qu'on majore un petit peu parce que il y a peut-être une surestimation de la part des Allemands, on arrive à cette volonté, de gens à exterminer. Et puis, nouvelle découverte. Les archives de Rommel, le maréchal Rommel, ces archives ont été saisies par les Britanniques. Et les Britanniques l'ont ouvert, les archives de Rommel, à la consultation des chercheurs qu'il y a un an à peu près. Et dans les archives de Rommel, on a trouvé les lettres que Rauf envoyait de Tunisie à ses supérieurs SS et qu'il faisait passer par l'état-major de Rommel. Il n'avait pas un accès direct à Berlin, ça devait passer par l'armée. Et c'est rare, les documents SS. Donc là, on a tous les rapports de Rauf à ses supérieurs. Il y a un chercheur israélien, mon ami Chaim Sadoun, qui est à l'Institut Ben Zvi et à l'Université libre d'Israël, qui est en train de travailler sur ces lettres de Rauf. Et il m'a confirmé qu'elles révélaient bien la volonté exterminatrice de Rauf, tout au moins, et de ses supérieurs à l'égard des Juifs de Tunisie.
Alors, vous soulignez également une difficulté d'ordre pratique, on va dire, c'est-à-dire que, évidemment, l'Europe est séparée de la Tunisie par la Méditerranée.
Oui, alors, les déportations par chemin de fer sont impossibles. Alors, il faut traverser la mer. Or, très rapidement, les Alliés acquièrent la maîtrise de la mer et la maîtrise du ciel. Bon. Donc, il y aura des déportations par avion. Il y aura un seul convoi de déportation par avion qui aura lieu en avril 1943, heureusement à l'extrême fin. Bon, donc il n'y a pas eu un deuxième. Mais Rauf le savait. Donc c'est pourquoi il rassemblait les jeunes juifs dans les camps, dans le but de les fusiller. Pas tout de suite, parce qu'il ne voulait pas créé un désordre, au moins moral, au sein de ses troupes, qui devaient combattre d'abord sur
oui,
le front.
Ça. Il y avait un autre front.
Il y avait un front. Mmh. Devaient combattre. C'est la bataille de Tunisie, c'est la dernière bataille frontale de l'histoire militaire par rapport à la guerre de 14. On est comme en 14. Il y a deux armées, l'une en face de l'autre, et l'une tire sur l'autre. Et elles se tirent les unes sur les autres. Donc il avait remis ça au moment où le front serait enfoncé et où il pensait que les armées allemandes pénétreraient en Algérie.
Est-ce qu'on peut faire un bilan de la guerre pour les Juifs en Tunisie? Combien de personnes sont décédées en camp de travail? Parce que je crois que les conditions de vie... Une quarantaine, c'est ça?
Une quarantaine, il y a 43 personnes.
Et en déportation?
Alors, en déportation, il y a eu une quarantaine de déportés et il y en a eu la moitié qui ne sont pas revenus.
La moitié. Est-ce qu'on peut revenir avec vous, Claude Nataf, plus largement cette fois sur la situation des Juifs en Afrique du Nord, une situation qui, vous l'évoquiez au début, a beaucoup varié selon les pays, la Libye, l'Algérie, le Maroc et bien sûr la Tunisie.
Alors, je parlerai d'abord de l'Afrique du Nord française, l'Algérie, Tunisie, Maroc. Mmh. En Algérie, c'est le statut métropolitain qui a été appliqué. Avec... une particularité, il y a une mesure qui n'a pas été appliquée en métropole et qui a été appliquée en Algérie. On a exclu la jeunesse juive de l'enseignement primaire et secondaire. En métropole, on a exclu les juifs que de l'université. Les jeunes juifs qui vivaient en France métropolitaine ont pu continuer à aller à l'école, quelquefois avec l'étoile jaune en zone occupée, sans étoile jaune en zone libre, mais avec tous les risques que cela comportait. En Algérie, on les a exclus, y compris de l'enseignement primaire, contrairement à la loi de 1881 sur l'obligation scolaire qui s'appliquait à tout le monde. Donc, mais il n'y a pas eu, en Algérie et au Maroc, la présence allemande. Au Maroc, il y a eu un statut des Juifs applicable au territoire chérifien, un peu moins sévère que le statut métropolitain, donc moins sévère que celui des Juifs d'Algérie, mais un peu plus sévère que celui des Juifs de Tunisie, notamment au niveau des quotas, des contingents. Avec cette particularité aussi, au Maroc, c'est que les Juifs qui habitaient à l'intérieur des quartiers européens, depuis moins de 10 ans, je crois, depuis moins de 10 ans, à la date du statut, ont été obligés de quitter leurs appartements et de retourner au Mellah. Retourner au ghetto, proprement dit, où il n'y avait que des Juifs. C'est une mesure qui a été appliquée très strictement, notamment à Fès, à Marrakech, un peu moins dans d'autres villes. Mais c'est la mesure particulière qui a frappé les Juifs du Maroc, indépendamment des éliminations professionnelles, etc.
Spoliation également?
Alors, spoliation en Algérie, ce sont les mêmes spoliations qu'en France. En Tunisie, les spoliations ont commencé à l'égard de certaines professions, mais elles ont été très progressives, elles n'ont vraiment été mises en place qu'en 1942. Elles se sont arrêtées au moment où les Allemands sont arrivés, l'administration française n'a pas voulu, peut-être par une sorte de pudeur, ajouter à tous les problèmes de la communauté juive des spoliations. Les spoliations d'immeubles avaient commencé en juin 1942, elles se sont arrêtées en novembre.
On peut dire, en quelques mots, peut-être parler de la situation en Libye, puisque l'émission se termine malheureusement.
Alors, en Libye, les Juifs de Libye ont subi les premiers, dès 1938, les lois raciales édictées par Mussolini. Avec Mussolini a édicté des lois raciales à l'encontre des Juifs italiens qui se sont appliquées en Libye avec une particularité, de sévérité que n'ont pas connue même les Juifs de la péninsule italienne.
Ah oui.
Et il y a eu aussi des expulsions de juifs libyens, mais qui n'étaient pas de souche locale, qui étaient de souche tunisienne, comme beaucoup d'entre eux, ou algérienne, qui ont été refoulés en Tunisie notamment, où il y a eu énormément de réfugiés libyens. Et puis lorsque les Allemands sont arrivés, les juifs de Libye ont connu des camps, et un certain nombre ont été déportés.
Je vous remercie beaucoup d'être venu, Claude Nataf. C'est un sujet passionnant et qu'on n'a malheureusement pas eu le temps d'exploiter.
Mais vous l'avez évoqué et il faudrait donner à vos auditeurs l'envie de lire les livres.
Voilà, c'est ça. Je rappelle que ces livres que vous avez dirigés dans la
FMS,
voilà,
un témoignage publié.
De la Shoah, de la FMS en coédition avec l'ONU, sont toujours disponibles. Alors, à la librairie du Mémorial de la Shoah, ils peuvent également être commandés sur Internet. On les trouve également dans de nombreuses bibliothèques municipales, notamment à Paris, la bibliothèque Marguerite Audour ou du Portefoin, près de la mairie du 3e arrondissement. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.